I knew a man, Bojangles, and he danced for you.
Bonsoir, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vagabondage et pour cette nouvelle année. Eh bien, comme le veut la tradition, permettez-moi de vous souhaiter à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Calade une très belle année 2019. Le Vagabondage de ce soir est consacré à la rencontre que nous avons pu avoir avec Guillaume Meurice à la toute fin de l'année 2018 à l'occasion de son passage à Villefranche-sur-Saône. Alors on a intercalé cette rencontre entre la dédicace qui a eu lieu l'après-midi à la librairie des Marais pour son livre Cosmé et le spectacle qu'il donnait le soir au théâtre de Villefranche. À peine sorti de la librairie des Marais, bien nous sommes rendus avec Guillaume Meurice à la brasserie du théâtre pour cet entretien quelque peu ricanant. Bonjour Guillaume Meurice.
Bonjour, bonjour et merci pour l'invitation.
Alors, tendre le micro avec Guillaume Meurice, c'est bien, ça fait un genre d'immunité un peu, comme ça on est sûr que là on ne sera pas questionné.
Ah, je sais pas, je peux peut-être sortir ma petite question qui fâche vers la fin. Peut-être il y a une petite Élise Lucet derrière mon dos qui va me souffler quelque chose. Par qui s'est financée cette radio d'ailleurs?
Par l'État.
Ok, bon, alors là je peux rien dire parce que je suis un peu dans la même situation.
Ah, justement, puisqu'on aborde cette question des questions.
Ouais. Question des questions.
Souvent, quand je vous entends sur France Inter, ça me fait penser à ce très bon livre de Normand Baillargeon, Petit cours d'autodéfense intellectuelle.
Mmh. Ok, je connaissais, je ne me rappelais plus le nom de l'auteur, mais effectivement, très bon livre.
Ouais. Illustré par Charb.
Ouais.
Ça fait partie...
On le conseille.
Voilà.
Ouais, ça fait partie des références, ouais, avec L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, qui est un petit bouquin assez marrant à lire. Alors que c'est Schopenhauer, hein, c'est quasiment peut-être le seul bouquin qui est marrant à lire, parce qu'il résume un peu toutes les techniques de débat, tous les arguments fallacieux, les petites astuces de rhétorique. Et puis Le Prince de Machiavel, qui est aussi intéressant à lire quand on s'intéresse à la politique et à la société, quoi. C'est intéressant de regarder un débat en ayant lu ces deux bouquins, plus effectivement les cours d'autodéfense intellectuelle.
En tout cas, de connaître les principaux sophismes. Et ça, on sait que ça vous sert bien au quotidien.
Exactement, il y en a plein. Même, moi, j'en utilise aussi. On ne fait pas attention parfois, mais ouais. C'est assez passionnant, ouais. J'aime beaucoup ça. J'ai découvert il n'y a pas longtemps, grâce à un mec de Twitter, qui a un blog qui s'appelle Un Mondrian, avec un jeu de mots, Mondrian, et qui fait de la zététique. Et j'ai découvert la zététique. Mmh. Et c'est passionnant, en fait. C'est un peu la science du tout, on pourrait dire. Et j'aime bien la remise en question, l'esprit critique, ouais.
Sur toutes les pseudo-sciences, voilà,
exactement.
C'est ça, ouais, ouais, c'est très intéressant. Ouais. Mm. Alors Guillaume Meurice, on se voit aujourd'hui surtout pour la publication d'un livre au mois de mars qui s'appelle Cosmé.
C'est ça.
Qui est un, comment on pourrait dire,
c'est un récit, quoi.
Un récit, c'est pas tout à fait un roman parce que ce n'est pas que l'imagination.
Non, c'est une histoire vraie.
C'est une histoire vraie.
Donc on a mis roman parce qu'évidemment, les dialogues, on les a réinventés parce qu'il se souvient plus exactement ce qui s'est dit. Tel ou tel moment, et puis on a changé quelques petites choses dans l'ordre chronologique, donc on a préféré mettre roman justement par honnêteté intellectuelle, mais sinon c'est une histoire vraie, ouais, c'est un récit de vie d'un ami à moi qui s'appelle Cosmé et qui fait de la poésie, quoi, qui est poète. Ça fait un peu pompeux comme ça de dire il est poète, mais ouais, il écrit des sonnets, quoi. Il est passionné de ça, et en écrivant un sonnet, en se mettant des contraintes, un peu comme feraient les membres de l'Oulipo qui font beaucoup ça, un peu les disciples de Georges Perec. En écrivant un de ces sonnets et en ayant en tête un autre sonnet de Rimbaud qui s'appelle Voyelle, il s'est dit, mais en fait, est-ce que je ne suis pas en train de reproduire les mêmes contraintes que Rimbaud s'était fixé sur Voyelle? Parce qu'il faut savoir que Voyelle, depuis 140 ans, il y a d'énormes controverses. Alors quand je dis d'énormes controverses, ça peut pas
chez
être... Ouais, c'est chez les Rimbaldiens, donc c'est pas non plus dans tous les PMU qu'on discute de ça. Mais les Rimbaldiens, c'est un milieu très...
C'est pas une revendication de gilets jaunes.
Non. C'est un milieu d'universitaires qui se la raconte un peu, qui se prennent au sérieux et du coup qui s'envoient des thèses à la gueule régulièrement pour se dire t'as tort.
Il y a des gens plus ou moins illustres d'ailleurs qui ont commis des hypothèses sur ce poème, comme... Par exemple,
il y a Lévi-Strauss.
Voilà, c'est
Lévi-Strauss. Il y a Aragon qui a été fouiné là-dedans. Et puis il y a Forisson qui est mort il n'y a pas longtemps. Donc ouais, il y a tout, il y a à boire et à manger quoi. Et chacun y allait de son interprétation. Mais ce qu'a trouvé donc mon ami Cosme, c'est pas une interprétation, c'est une preuve tangible. Alors, je ne vais pas la révéler.
Une clé de lecture.
Une clé de lecture, exactement.
Alors, quand on prend le livre, déjà sur le livre, reproduisait un autographe de Rimbaud, enfin le poème écrit
ouais,
de la
main
de Rimbaud, parce que ça nous permet de comprendre cette fameuse clé de lecture du poème. Et on a bien compris que la clé, on va l'avoir à la fin.
Ouais, bah oui, j'allais pas la mettre au début.
On a bien compris que la clé, on allait l'avoir à la fin, et qu'avant, il allait falloir se coltiner toute l'histoire de Cosme.
Exactement.
Avant de mériter.
Mais moi, je trouve que l'histoire, parce qu'en fait, moi, je suis un peu une bille en littérature. Le poème, j'avais des vagues souvenirs de l'école, mais c'est tout, quoi. Mm-hmm. Donc, en fait, ce qui m'intéresse, moi, dans le livre, c'est même pas la clé. En fait, je m'en fous un peu. C'est un peu un prétexte, de raconter l'histoire de ce mec-là qui a une vie. Rocambolesque, si on veut utiliser des mots désuets, comme Macron le fait.
Et justement, c'est là où vous avez été fort, parce que pareil, moi quand j'ai commencé le livre, ben voilà, je dis vivement la fin, il y a 300 pages, vivement la fin, que je sache enfin ce qu'il y a. Ouais. Même si pour moi, vous voyez, je me souvenais même pas l'avoir appris à l'école, mais quand même, on se dit, il y a un truc un peu qu'on va apprendre, donc on a envie de savoir. Et puis là, donc, on commence, la vie de Cosme, son enfance, et puis... Rapidement, je veux dire, en plus, il s'amuse avec nous, Guillaume Meurice, parce qu'en plus, il nous raconte ça comme pendant 50 pages, 60 pages, comme avec un ton comme si c'était une introduction à quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a, alors je ne sais pas si c'était volontaire dans le style, mais c'est raconté d'une façon, comme ça, on a l'impression, bon, c'est pour introduire le propos, je vais vous raconter à la fin, ouais. Donc ça dure comme ça, 100 pages, 200 pages, raconté à la façon d'une introduction. Et alors, ça fait monter un peu la tension quand même, mais ça énerve.
Ah, ça, je n'ai pas écrit pour que ça énerve ou que ça agace, mais c'est intéressant, j'aime bien que ça fasse cet effet-là. Non, je l'ai écrit, c'est un peu con, mais je l'ai écrit de la manière dont j'aurais aimé le lire, en fait. Donc j'ai pas voulu. Moi, ce que j'aime, les livres que j'aime lire, j'aime pas quand il y a des effets de style, quand la personne qui écrit me montre qu'elle maîtrise tous les tenants et les aboutissants de la langue française, les tournures stylistiques. J'aime pas les démonstrations et tout ce qui est de l'ordre de la performance. Donc moi, je voulais juste que, à la fin de ce livre, on le referme en se disant, mais merde, ce mec-là, est-ce qu'il a vraiment existé? Est-ce qu'il est mort? Est-ce que c'est Guillaume Meurice qui l'a inventé? Je voulais qu'on s'intéresse au personnage principal. C'était mon seul souhait, quoi. Donc j'ai plutôt travaillé sur le rythme, plutôt que sur les tournures de phrases ou ces choses-là. Mais potentiellement, ça vient du fait que je suis humoriste et que la comédie, c'est essentiellement du rythme. Bon, ça ne veut pas dire que ce qu'il y a dans les phrases et les mots qui sont utilisés, l'histoire racontée, n'a pas d'intérêt. Mais ça tient beaucoup sur la cadence, des phrases courtes, longues, des alternances. Ça j'ai pas mal bossé, entre guillemets, là-dessus. Ouais.
C'est d'ailleurs amusant parce que quand on lit les poèmes de Cosme qui sont au début de chaque chapitre, on voit que lui, c'est pas tant dans la signification qu'il va chercher à se mettre des contraintes, qu'il va chercher des choses, mais simplement dans la forme, dans le style, dans les choses comme ça. Donc du coup, ça crée presque aussi un moment, un peu un décalage, en tout cas, entre les poèmes qui sont là et puis le style du livre. Donc on suit la vie de Cosme.
C'est ça.
Son enfance, sa jeunesse, les années lycées,
service ses militaire. Différents
et puis petit à petit, il y a des pièces de Pulse qui se mettent en place, comme ça. Alors sans dévoiler trop de choses, bien sûr, mais
on découvre
sa passion pour les échecs, voilà. Et ça prend beaucoup de place, d'ailleurs, dans la vie de Cosme.
Ouais.
Et on se dit, tiens, Cosme, il ressemble un peu à ce qu'on appelle maintenant un peu des neuro-atypiques, des doux rêveurs, des gens
qui
fonctionnent pas un peu, pas trop comme les autres. On découvre sa passion pour la poésie, comment il y arrive, voilà. Et puis son service militaire, ce qu'il va y faire et comment chacune des pièces de ce puzzle là, qui se crée, les unes à côté des autres, un jour, paf, il y a une épiphanie qui va arriver, ça va devenir, on va comprendre pourquoi il a compris. Et ça, finalement, c'est en ça que c'est un roman, parce que c'est une histoire banale, incroyable.
Ah, c'est pas mal, bel oxymore. Finalement, on se rend compte que dans cette vie un peu foutraque, il y a une cohérence. Moi, je traduirais ça un peu simplement, on va dire, par une sorte de recherche de liberté, quoi. C'est-à-dire qu'il est en permanence en refus des codes de l'autorité, de la hiérarchie. Notamment, on le voit dans le chapitre sur le service militaire, où il va toujours chercher les failles à l'intérieur d'un système pour pouvoir un peu le hacker, quoi. Ouais. C'est un peu un hacker poète, quoi. Ou un disrupteur, si on veut utiliser des mots de maintenant. Et ça, c'est ça qui m'a plu chez lui. Mais effectivement, il a très tôt le besoin de comprendre comment ça marche, quoi. Comment ça s'articule la société, les gens entre eux. Déjà, il vient d'une famille qui vient d'Espagne, donc il a les deux langues. Donc pour lui, il considère que c'est un relief, par exemple, d'avoir deux langues. C'est comme d'avoir les deux yeux, ça permet d'avoir de la profondeur dans le discours. Donc il y a un terreau qui est un peu fertile aussi à ça. Et puis ouais, il y a une épiphanie, c'est pas l'épiphanie de sa vie, je pense c'est l'épiphanie du livre, quoi.
Oui.
Puisque le prétexte du livre était cette découverte assez incroyable. Mais ça fait 10 ans qu'il l'a trouvé, et il continue à vivre comme ça, comme Cosmé. Il continue à être... en fait, un peu atypique, on va dire, mais oui, comme il est en refus des normes, il voit pas pourquoi il devrait se confronter à la société telle qu'elle est et se mouler dedans. Il se dit, bah non, mais il le fait sans prétention. Il se dit pas, je suis un putain de rebelle et je vous emmerde. Il dit, non, mais moi, je vais pas faire comme ça, je vais faire autrement.
Il vit en accord avec lui.
Exactement. Et c'est hyper inspirant, ces gens-là, je trouve. Mmh. Parce que ça montre une autre voie, quoi. Finalement, il existe, il est heureux, enfin, il est mu par les mêmes instincts. Les mêmes affects que nous, mais voilà, il fait un pas de côté en permanence, et moi, j'aime beaucoup ces gens-là.
Cosmé, il vit pas sa vie de façon, en tout cas, vous connaissez le Cosmé, et nous, on connaît que celui que ouais. Vous avez dévoilé dans le livre, mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui avance pas de façon linéaire, et que lui, ce qui l'intéresse, voilà, c'est les chemins de traverse,
ouais.
Et qu'un jour, ben, toutes ces choses-là qu'il va emmagasiner, comme compétences, comme connaissances, comme expertise, qui n'ont à première vue rien à voir les unes avec les autres, et à un moment ça va se regrouper, puis il va jaillir quelque chose et ça va faire sens. Et c'est ça, ouais. Moi j'ai trouvé intéressant dans le parcours de ce personnage.
Ouais c'est vrai, ouais. Par exemple, si on veut revenir sur les échecs, ça paraît avoir comme ça rien à voir avec la poésie, alors que moi, quand j'ai commencé à discuter avec lui, je voyais pas trop le lien. Et au final, la poésie, en tout cas telle que lui il la pratique comme un jeu, comme quelque chose de ludique au bon sens du terme, quoi. Il se dit pas, oh là là, c'est la littérature, il faut que je sois à la hauteur de tel ou tel, je suis le nouveau Mallarmé. Enfin, c'est pas ça du tout. Il se dit, je vais m'amuser avec les mots, quoi. Et aux échecs, c'est pareil. Il est aux échecs. Moi, je joue pas aux échecs, par exemple. J'y connaissais rien du tout. Donc, je connais que à travers lui. Et il m'expliquait qu'effectivement, ton principal adversaire, c'est toi-même, quoi. C'est-à-dire, c'est le travail que t'auras fait sur la théorie avant, sur essayer de maîtriser ses émotions et plein de choses comme ça, qu'on retrouve aussi dans la poésie. Et il me racontait que s'il avait trouvé ce secret de Rimbaud, c'est aussi en prenant, il le dit d'ailleurs un peu à la fin, sans spoiler, mais en prenant ça comme un jeu d'échecs, un problème d'échecs, comme un mat, comme il y a dans des journaux, par exemple, on voit une grille d'échecs, marqué mat en 3, il faut trouver. Et ben, il savait que dans ce poème de Rimbaud, il y avait quelque chose à trouver. Donc il a cherché comme ça, en se disant, bon, s'il y a quelque chose à trouver, je vais le trouver. Et finalement, il a trouvé en écrivant. On dirait un peu par hasard, mais en fait, c'est parce qu'il a fait un travail avant qu'il a trouvé. Donc, ça paraît, ce qu'on disait, ça paraît ne pas avoir de sens et ne pas avoir de lien, mais en fait, ça en a beaucoup.
En fait, Cosmé, c'est un peu le roman, on va sortir d'autres mots encore, là, de la sérendipité, un peu.
Ah ouais, c'est vrai. Alors, on a tout dit, là. Ouais. Oh ouais, ça peut. Ouais. Ben ouais, j'aime bien. Bon, là, on a tout dit, atypique et libre, quoi. Moi, j'avais besoin de faire ressortir ça de lui. Ouais.
Et finalement, donc là, je vais donner simplement mon point de vue de lecteur. Hein, finalement, quand on arrive dans les 30 dernières pages, où enfin, on arrive... Enfin, rien ne nous empêche non plus d'y aller directement. Mais quand on veut suivre la règle du jeu et qu'on va... on suit les choses justement de façon linéaire, on arrive à la fin, puis on fait... Bon, ouais, d'accord. Et Cosmé, au fait.
Ouais, voilà.
C'est lui le vrai intérêt de ce
livre. Ça, c'est ça qui me plaît. C'est un beau compliment, ouais. Parce que au final, les gens qui sont passionnés par cette histoire, il n'y en a pas par l'histoire de voyelles, il n'y en a pas 10 000, quoi. Donc c'est une niche parmi la niche, déjà.
Ça fait oui quand même. On dit ah ouais, quand même, il a fallu aller chercher loin pour trouver ça dans voyelles et dans.
Ouais.
Est-ce qu'il y trouve? Mais en tout cas, on se dit bah ouais, mais en fait là-dedans tout l'intérêt, c'est finalement c'est Cosmé qu'on a envie de voir.
Ah, exactement, ouais. Mais après, ce qui est marrant, c'est ça dit un peu de choses sur Rimbaud. Rimbaud, quand il écrit ça, c'est les deux derniers poèmes qu'il écrit, c'est Voyelles et Oraison du soir, qui sont cryptés de la même manière, avec la même clé de lecture. Et après, il se barre, quoi. Il dit, la poésie, c'est bon, j'ai fait le tour, je me casse, quoi. Et il a 17 ans et demi, quoi, 18 ans. Donc en fait, c'est un truc d'ado. C'est une connerie d'ado, quoi. Il place, alors sans révéler le truc, mais il place dans le poème le pire qu'il peut y avoir pour l'époque. Et il dit, en gros, démerdez-vous. Et il s'en va. Et nous, enfin, on a eu un questionnement.
Et après, il va faire des conneries.
Et après, ouais, il part en Afrique, il divague.
Cosmio a fait le contraire. Il a fait d'abord les conneries, et après, ouais, s'intéresser à la
poésie. Il continue à faire des conneries. Mais c'est vrai que ouais, ça en dit un peu sur Rimbaud, qui est très, c'est très fantasmé comme poète et comme poésie. On y met un peu ce qu'on veut dedans, parce que c'est, il y a des fois, il n'y a pas forcément de sens à chercher. Justement, dans Voyelles, il n'y a pas tellement de sens, en fait. C'est plus, il faut voir ça comme un tableau. Donc, évidemment, s'il n'y a pas de sens et qu'on peut y mettre ce qu'on veut, ça attire des gens qui sont passionnés d'ésotérisme, des choses comme ça, des charlatans, de tout, quoi. Et moi, je trouve ça intéressant, ça en dit autant sur Rimbaud, qui est finalement un ado, c'est un petit con, quoi. Et ça, c'est un petit con. C'est un petit con surdoué et génial qui manie parfaitement la langue française et même le grec, le latin, etc., etc. Mais c'est quand même un petit con d'ado. Et je trouve que c'est génial, c'est le gamin du fond de la classe qui balance une boulette de papier. Mais c'est ça qui me plaît aussi, et chez Cosmé et chez Rimbaud.
Je suis né dans un petit village qui a un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocages. C'est le village de Saint-Martin. À peine j'ai 5 ans qu'on m'emmène avec ma mère et mes frangins. Mon père pense qu'il y aura du turbin dans la ville où coule la Seine. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. La capitale c'est bien joli, sûrement quand on la voit de Passy, mais de Nanterre au Charenton, c'est déjà beaucoup moins folichon. J'ai pas de mal à imaginer, pas où ce que mon père est passé, car j'ai connu 10 ans plus tard le même tracas, le même bazar. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être. Matin faut aller piétiner devant les guichets de la main d'œuvre. L'après-midi solliciter le bon cœur des punaises des bonnes œuvres. Ma mère elle était toute paumée sans ses lapins et ses couvées. Et puis pour voir essayer donc sans fric de remplir 5 lardons. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Pour parfaire mon éducation, il y a la communale en béton. Là, on fait de la pédagogie devant 60 mots en furie. En plus de l'alphabet du calcul, j'ai pris beaucoup de coups de pied au cul. Et sans qu'on me l'ait demandé, j'ai appris l'arabe et le portugais. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en preuve d'être né. À 15 ans, fille, la belle vie. T'es plus un monde, t'es plus un petit. Je me retrouve les deux mains dans le pétrole, à frotter des pièces de bagnole. 9-10 heures dans un atelier, ça vous épanouit la jeunesse. Ça vous arrange même la santé. Pour le monde, on a de la tendresse. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Quand on en a un peu là-dedans, on n'y reste pas bien longtemps. On s'arrange tout naturellement pour faire des trucs moins fatigants. Je me faufile dans une méchante bande qui voyoute la nuit sur la lande. J'apprends des chansons de brouillon en faisant des croche-pattes aux agents. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Sur la maison Poulaga, ma grippe à mon premier faux pas. Ça tombe bien, mon pote t'as de la veine. Faut du monde pour le FLN. Je me farcis 3 ans de caspi, mon rescap illimité déjà. Y'a de quoi prendre toute l'Afrique en grippe. Mais faut servir le pays ou pas. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en fait d'être né. Quand on me reloge, je suis vidé, je suis comme un petit sac en papier. Y a plus rien dedans, tout est cassé, j'ai même plus envie d'une mémé. Quand j'ai cru que j'allais me réveiller, les flics m'ont vachement tabassé pour dire que je m'étais amusé. Alors balance et des pavés, j'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Les flics pour ce qui est de la monnaie, ils la rendent avec intérêt. Le crâne, le ventre et les roustons, enfin quoi vive la nation. Le juge m'a filé 3 ans de caisse, rapport à mes antécédents. Moi je peux pas dire que je sois en liesse, mais enfin qu'est-ce que c'est que 3 ans. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, quoi ça sert de vivre et tout, quoi ça sert en bref d'être né. tour, je vais pouvoir m'épanouir dans une société structurée. Je ferai des chansons et des ballets et je pourrai me remettre à lire. Je suis né dans un petit village, un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocage, c'est le village de Saint-Martin. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, quoi ça sert de vivre et tout, quoi ça sert même d'être né.
Vous êtes à l'écoute de Calade et c'est l'émission Vagabondage. Nous retrouvons tout de suite la seconde partie de l'entretien qui nous a été donnée par Guillaume Meurice.
Guillaume Meurice, on sent que à la lecture de Cosmé, vous aimez Cosmé.
Ouais,
et
ouais.
Tous les gens que vous rencontrez, ne serait-ce qu'alors là, on a vu y a des gens qui viennent vous rencontrer parce qu'ils vous connaissent par la radio,
ah, oui,
par vos spectacles, ouais. Voilà. Mais il y a aussi les gens que vous allez rencontrer pour la chronique que vous faites ouais. Dans l'émission Par Jupiter. Parfois, vous rencontrez des gens un peu obtus, des choses comme ça, et ceux-là, vous réussissez à les aimer ou pas?
Ouais, ouais. Alors, après, je suis pas chrétien, hein, je suis pas dans l'amour universel. donc, mais j'arrive pas à ne pas les aimer en tout cas. Parce qu'on n'est pas responsable de ce qu'on est, je pense, quoi. Donc je suis un peu déterministe là-dessus, mais je peux pas en vouloir à quelqu'un de penser ça. Moi, si je pense ça, je suis pas très certain que ce soit moi qui me sortirais du monde pour réfléchir à ce que je vais dire et à mes opinions. Donc souvent, en fait, ce qu'on a à traquer chez nous, Homo sapiens, c'est la faculté qu'on a à répéter des choses sans remettre en question d'où ça vient, qui nous l'a dit, et même tout bêtement la véracité de ce qu'on entend. Mais c'est parce que c'est un peu biologique, on est des mammifères, on apprend en imitant, donc toute notre vie on garde ce vieux réflexe d'entendre une info et d'abord de la considérer comme exacte. Et c'est le petit travail qu'on a à faire après de se dire « Attends, calmons-nous,
pourquoi
voyons ce qui
ça,
se passe. » Ouais. Mais ça, moi j'ai la chance aujourd'hui d'être payé pour faire ça. Mmh. Je suis payé pour prendre des infos et me dire « Alors attends, peut-être que non », d'aller chercher d'autres sources ou d'autres discours, et puis après de les soumettre aux gens que je croise dans la rue, dans les forums ou aux députés ou des choses comme ça. Mais c'est une chance que j'ai. Après, je conçois très bien que quand on n'a pas le temps de le faire, qu'on a une vie difficile, des gosses et un travail chiant, qu'on rentre le soir crevé et qu'on regarde le JT, qu'on se dise pas à chaque info bah, « Attends, je mets pause et je vais chercher des sources pour que cette personne me dise ça. » Donc j'en veux plus aux structures qu'aux humains, en fait. J'en veux pas aux humains, j'en veux à la structure. La structure est débile, quoi. La structure rend les gens soumis et serviles, et c'est dommage, quoi.
Quand vous dites la structure, c'est vague. Donc, c'est quoi la structure? C'est l'organisation de la société?
Ouais.
C'est,
oui. L'organisation de la société. Oui, oui, évidemment, oui. Le système de domination ne veut pas du tout. La vision verticale de la société, elle est même contre-productive, ça c'est sûr et certain. Et elle est même contre-naturelle, quoi. Par exemple, la compétition dont on vante les louanges à longueur de temps. Enfin, quand je dis « on », la société libérale nous vante les louanges en disant « Mettez-vous les uns en compétition avec les autres, et puis il sortira le meilleur, et puis le premier de cordée qui tirera les autres. » Ce qui est d'ailleurs, si je fais une petite digression, une incohérence en termes d'alpinisme. Le premier de cordée, il tire pas les gens vers le haut, en fait. Il les sécurise à la limite. Mais quand Macron, il dit « Faut soutenir les premiers de cordée parce qu'ils tirent les gens », c'est pas... Bref,
ça les premiers de cordée, c'est plutôt les gens derrière qui le retiennent s'ils se cassent la figure.
En plus. Bon, ça c'était une petite digression, mais toute cette adoration de la compétition dans tous les domaines, même les concours d'humoristes, même les, tu vois, il faut classer les gens, il y a toujours une besoin de verticalité, de hiérarchie. Elle est contre-naturelle. S'il n'y avait pas eu de coopération, il n'y aurait pas d'être humain sur Terre, quoi. Parce que pour chasser un mammouth, t'as intérêt à coopérer. Une trentaine, parce que si tu vas tout seul avec ta bite et ton couteau en pierre, tu vas pas faire long feu. Donc moi j'aimerais par exemple qu'on mette plus en avant le besoin de coopération qu'il y a entre chaque être humain. Et ce qui fait qu'on est un être humain, c'est parce qu'il y a d'autres êtres humains à côté, hein. Enfin c'est débile, hein, c'est basique, hein. Enfin c'est pas débile, mais c'est, j'enfonce des portes ouvertes, mais en même temps t'allumes la télé et tu ne vois que de la compétition, que des machins et premiers, ça va de la bourse à au championnat du monde de tartiflette.
Ça me fait plaisir de vous parler de la bourse, parce que moi, alors, j'en profite, peut-être que vous n'êtes pas le mieux placé à France Inter pour répondre à cette question, mais j'ai jamais compris l'intérêt d'avoir comme ça toutes les heures 5 minutes sur la bourse, alors que je pense que 95% des gens qui écoutent France Inter, pour eux, c'est un truc complètement ésotérique, tout cet empilement de chiffres.
Et surtout, les 5% restants, si je
reprends au chiffre,
bah ouais, tu vas pas sur France Inter à côté de la bourse. Alors, je pensais que c'était dans le cahier des charges, moi, de Radio France, ou de France Inter. Et de France Inter. Et en fait, non, on m'a expliqué que c'était quand même plutôt une question de pognon. Ça rapportait de l'argent de faire ça. Et je savais pas. Et donc voilà.
Parce que par exemple, il y a un autre truc auquel je capte rien, mais qui pourtant. Alors maintenant, ça n'existe plus, mais que j'aimais écouter, c'est la météo marine. Parce que ça faisait. Il y avait un truc, c'était très poétique, quoi.
Ça,
mais...
C'est vrai, ça n'existe plus, ça, je crois. Ouais.
Non, pas plus sur France Inter.
Ah ouais, c'est vrai que la météo marine, on pigeait rien. Ouais. Bah moi, j'aurais préféré garder la météo marine et virer la bourse. Moi, je suis d'accord.
À la rigueur, je me dis qu'on a peut-être plus de chances d'aller faire un tour en bateau que d'acheter des actions.
Exactement. Et puis la météo marine, c'est un bel exemple de coopération. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont chercher des informations pour aider d'autres gens. Mm-hmm. Voilà. Alors que la bourse, c'est un bel exemple de l'inverse. Des gens qui vont essayer d'avoir des informations pour niquer d'autres gens. Ça en dit long sur l'état de la société, que même sur le service public, on garde la bourse et qu'on enlève la météo marine. Je pensais pas passer par ce chemin pour arriver là, mais il est super bien ce chemin.
Ce soir, vous faites la dernière, si j'ai bien compris, d'un spectacle qui a déjà pas mal tourné. Et il y a un projet de spectacle musical derrière, avec un super groupe qui s'appelle Les Disruptives.
C'est ça. Ouais, c'est même plus qu'un projet, parce qu'on l'a déjà joué.
Alors, on a la radio, et nous, on n'a pas de radio filmée, on n'a pas les moyens, mais quand je vous dis ça, quand je dis il y a les disruptifs, là, je vois, ça pétille dans vos yeux, et un sourire de gamin qui s'affiche sur votre visage, c'est terrible.
C'est mon nouveau jouet. Ouais, c'est vrai que ce spectacle-là que je termine, dont je termine la tournée ce soir, je l'ai joué 451 fois, donc moi, ce que j'aime bien dans la vie, c'est aussi pas avoir de regrets de ça. Là, je crois que j'ai fait le tour... Je peux le prendre dans tous les sens, le jouer à l'envers, improviser 20 minutes et revenir sur mes pattes. Donc je suis content d'avoir fait le tour et je suis content d'avoir un nouveau projet qui change dans la forme de ce que je fais, quoi. Ouais, j'ai monté un groupe de musique avec des potes et on a créé donc le premier groupe de rock macroniste de l'histoire et ça m'amuse bien, ouais.
Alors, quand on monte un groupe de rock macroniste, est-ce que c'est d'abord on monte ça avec des musiciens ou avec des gens de la société civile? C'est-à-dire, est-ce que c'est aussi est-ce que c'est un peu comme le gouvernement et à l'Assemblée? Est-ce que c'est un groupe d'amateurs ou est-ce que c'est des pros de la musique?
Non, c'est des pros de la musique. Là, j'ai pris le rôle des pros de la musique. Là, c'est le cercle rapproché. Après, ce sera les gens dans le public. Je vais pouvoir dire, oui, c'est les gens de la société civile dans le public. Vous devez applaudir à tel moment, comme il fait avec le député. Ça, ouais, on va pouvoir s'amuser avec ça. Mais non, il valait mieux que ça soit des musiciens pros, quoi. Parce que moi, je ne me considère pas tellement comme musicien. Je sais gratouiller 2-3 accords et chanter vaguement. Parfois, ça tombe juste, mais c'est un coup de bol. Mais comme dirait Renaud, l'essentiel, c'est pas de chanter juste ou de chanter faux, c'est de chanter vrai.
Et là, c'est de chanter un peu décalé aussi. Là.
Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. C'est pas l'objectif, c'est pas la performance vocale, on l'aura compris. Mais c'est un spectacle musical, ouais. C'est pas seulement un concert, donc on raconte une histoire. Enfin, moi, j'aime bien le théâtre, je viens de là, donc j'aime bien que ça s'articule avec un début, un milieu, une fin, des rebondissements. Et donc, on est 4 sur scène, voire 5. Je vous dis pas pourquoi, mais peut-être des surprises. C'est un spectacle assez souple dans le sens où on peut enlever des chansons, en remettre. Il y a de la vidéo. Si un jour il y a Francis Lalanne qui veut passer, on peut lui trouver un. Bon, il faudrait 3 heures peut-être, mais. Non, mais je dis n'importe quoi, mais s'il y a un guest ou quoi, ça peut avoir sa place aussi. Donc c'est. Je pense qu'on va
peut-être
s'éclater.
Même avoir Emmanuel Macron, parce que maintenant il répond sur change.org, il va manger aux courtes pailles, donc pourquoi pas venir faire un guest avec les disruptives.
Il a répondu sur change.org.
Ouais, à la pétition demandant l'annulation des taxes sur le carburant.
Ah, j'avais pas vu.
Il a fait une réponse directement dans la pétition.
Ah, j'avais pas fait gaffe à ça. Ah, pas mal. Il est fort. Et le courte paille, j'avais suivi, ouais. Il sait plus quoi faire. Il va bientôt faire la manche dans la rue. Et donc, c'était quoi la question, pardon? J'ai oublié la question.
Bah du coup, non, on parlait des guests, voilà,
oui,
des gens qui pourraient venir.
Ça peut être Gérard Collomb en première partie. Ça peut être un slam de Benjamin Griveaux. Ça peut tout est possible. Dans ce spectacle, tout est possible. Puisqu'il y a une trame qui est quand même solide, à l'intérieur de laquelle on peut insérer plein de choses.
Et donc, du coup, vous allez le proposer à partir de quand, ce spectacle?
Janvier. On commence janvier au Café de la Danse. On a de janvier à juin une douzaine de dates, je crois. Parce que, comme on l'a monté cet été, les saisons étaient déjà bouclées dans pas mal de lieux. Et puis après, 2019-2020, on a vraiment une tournée. Je pense qu'on va jouer presque tous les week-ends, histoire de bien s'amuser, quoi. Et puis d'amuser les autres, si on peut.
Guillaume Meurice, merci en tout cas pour ce moment de partage. Et puis on vous souhaite bonne continuation dans la chanson.
Bah avec plaisir, bah dans la déconnade. Hein. C'est ça un peu le lien entre tout.
On rappelle, le livre, c'est Cosmé.
Ouais, Cosmé, Flammarion.
Chez Flammarion, sur la vie de Cosmé, on le verra.
Exactement, c'est ça, on a tout dit. Merci beaucoup.
Afin de prolonger cet entretien, je vous propose maintenant de retrouver Bertrand Lamure de la librairie des Marais pour ses coups de cœur du libraire, quelque peu en lien avec le sujet d'aujourd'hui.
Alors donc, coup de cœur de la librairie des Marais en ce début de l'année 2019. On a dans le monde de la librairie et de l'édition ce qu'on appelle la rentrée d'hiver, donc la deuxième rentrée littéraire après la fameuse de septembre. Donc c'est toujours l'occasion de découvrir de nouveau des romans, des BD, donc de nouveau plein d'univers. Alors, premier coup de cœur, c'est un coup de cœur qui est pour un livre qui est très court, que vous allez lire en une journée, une soirée, mais justement il faut tenir ce rythme. C'est le dernier de Céline Minard, quelqu'un que j'aime beaucoup, pour une écriture assez rapide, assez énergique. Et là, ce sont les Bacchantes. Alors Bacchantes, c'est tout simplement la plus grande cave du monde à Hong Kong de vin. Il y en a environ pour 1 milliard. Et il y a un braquage de cette fameuse cave qui est censée être la cave la plus sécurisée du monde. Et donc là, braquage, je ne vous dis pas qui braque, comment ça se passe, mais c'est court, énergique et à votre santé, parce qu'il y a de quoi boire. Alors, deuxième coup de cœur, qui est un premier roman qui a reçu le prix Pulitzer en 2018 et qui est d'un Américain qui s'appelle Andrew Singer, et c'est Les Tribulations d'Arthur Miner. Alors, c'est un écrivain plutôt beau gosse, la quarantaine, écrivain un peu raté, il est à San Francisco. Alors il s'est fait larguer par son copain, il s'est fait un peu larguer par tout le monde, il sait plus bien où se positionner, et au final il décide d'accepter toutes les invitations à l'étranger qu'on lui propose, et il va entamer une sorte de tour du monde. Il va aller au Maroc, il va aller d'abord à New York, puis en Allemagne, puis au Japon, puis en Thaïlande, et on va suivre ses tribulations. Alors, il y a un côté un peu loser, il y a un côté assez tendre, et c'est surtout très bien écrit, et on suit ça avec grand plaisir. Il y a beaucoup d'humour, et vraiment, je l'ai découvert là, en ce début de l'année 2019, et ça a été un vrai coup de cœur. Il y a aussi de la BD, parce que nous n'oublions jamais que la BD fait aussi partie des coups de cœur qu'on peut avoir tout au long de l'année. Alors, deux coups de cœur bien différents. Il y en a un qui est un coup de cœur que j'avais eu dès le mois de décembre, qui était Fête Himalayenne. Alors, Fête Himalayenne, c'est fait par le trio Loud, Lièvre, Nègre, et c'est notre fameux Jean-Yves Loud, que tout le monde connaît bien en Beaujolais, qui est un fameux écrivain voyageur, et qui a mis en place une exposition au Musée des Confluences qui s'appelle Les Derniers Kalachs, que vous pouvez voir tout au long de l'année 2019. Et il a fait une bande dessinée qui est aussi le catalogue de l'exposition. Et c'est vraiment passionnant de découvrir le peuple Kalash, qui est le dernier peuple polythéiste du Pakistan. Ils sont plus que 3000 et ils ont fait une très très belle bande dessinée avec des photos au milieu. Et à la fois, lisez la bande dessinée, hyper instructive, et allez surtout voir l'expo au Musée Confluence tout au long de l'année 2019. Alors, complètement différent, une autre BD de Fabrizio Dori, qui est un Italien, Le Dieu Vagabond. Et c'est l'histoire en fait d'un dieu qui est un satyre. Il faisait partie de la bande à Dionysos, et les vicissitudes du monde fait qu'il a été bouté de la cour de Dionysos, et que depuis 2000 ans il erre sur terre. Et on va le suivre comme un vagabond qui aimerait bien évidemment retourner dans le clan de Dionysos pour faire la fête et boire du vin. Et on va le voir errer à travers, ici en France. Et on a à la fois une histoire très intéressante, mais un graphisme superbe. Alors, c'est un peu emprunté à l'art nouveau, c'est un peu emprunté aux estampes japonaises. C'est un énorme coup de cœur. Et donc, plongez-vous dans l'univers de Stis, qui est ce dieu vagabond, ce satyre, mais également dans tout cet univers entre réalité et monde grec. Et pour finir, un petit roman jeunesse qui est La tribu des Hippolis. Il est fait par un catalan. Alors c'est un petit livre qu'on peut lire dès 9-10 ans. C'est autour d'un jeune garçon qui s'appelle Guilhem. Et Guilhem, c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout lire. Et sa plus grosse angoisse, c'est quand, avec l'école, ils vont tous les mercredis à la bibliothèque. Et là, il est obligé de choisir un livre. Et il n'y arrive pas. Il ne peut pas lire, il ne comprend pas. Et un jour, il découvre par hasard, vraiment caché au fin fond d'une étagère, un livre qui s'appelle La tribu des Hippolis. Et ce livre lui parle à lui, Guilhem. Et quand c'est sa maman ou son frère qui lisent, ils lisent pas du tout la même histoire. Et du coup, ça va être un livre où il va se plonger dedans, il va découvrir un autre univers. C'est pas de la science-fiction, mais du coup, c'est très très beau à lire, c'est très chouette. Alors ça se lit, moi je l'ai lu avec grand plaisir, mais c'est plutôt à partir de 9 ans. Mais une vraie belle petite lecture de jeunesse. Donc, si je récapitule un petit peu tous les coups de cœur de ce début de l'année 2019, il y avait Bacan de Céline Minard, très bon, presque du polar hongkongais. Pour suivre, il y avait le premier roman de Andrew Syngreer, Les Tribulations d'Arthur Miner, cet écrivain un petit peu loser qui va parcourir le monde. Puis deux BD, la première de Jean-Yves Loud, Les Fêtes Himalayennes, en lien avec le musée Confluence sur les derniers Kalash. Le Dieu Vagabond de Fabrizio Dori, sur ce satyre qui a quitté un petit peu le monde de Dionysos et qui de coup erre, avec une illustration absolument génial. Et pour terminer, La tribu des Hippolis, un super roman jeunesse d'un petit garçon, Guilhem, qui n'aime pas du tout lire, mais qui va au final adorer la lecture, et ça dès 9 ans. Donc voilà, et alors évidemment, il y en a plein d'autres qu'on découvrira tout au long de l'année 2019. Donc bonne année à tous!
Si vous souhaitez retrouver la liste des ouvrages qui vous ont été présentés par Bertrand Lamure lors de sa chronique Les coups de cœur du libraire, eh bien moi je vous conseille non pas d'aller sur internet, mais de vous rendre directement à la rencontre de Bertrand, à la librairie des Marais, pour échanger directement avec lui. Voilà une belle résolution pour 2019, remettre du lien, remettre de la rencontre et remettre un petit peu d'authenticité dans nos relations. Et justement, puisqu'il est question de ces résolutions que l'on peut prendre en 2019, au mois de janvier, vont-elles tenir jusqu'à fin janvier? Ça, on se le demande. En tout cas, le mois de janvier, et plus particulièrement le début du mois de janvier, est assez riche en fêtes. Et c'est le sujet de la chronique du mois qui vous est présentée par Sylvie Calais de l'association Écriture et Papyrus.
Bonjour et bonne année à tous. Alors, comme chacun sait, janvier commence le 31 décembre à minuit. Qu'on ait opté pour un réveillon grandiloquent dans un resto à paillettes où les cuistots auront mis les petits plats dans les grands et de gros prix à la place des petits, qu'on ait choisi de passer un réveillon entre amis, prétexte à beuverie, qu'on se soit rabattu sur une soirée en famille en attendant impatiemment que sonne minuit, ou encore sur un réveillon en solitaire englué dans un tonneau de bière, il n'est pas rare de démarrer janvier avec une sacrée gueule de bois. Mais n'allez pas vous en plaindre, on en reparlera. Revenons au mois de janvier donc. Un mois, que dis-je? C'est une année, c'est un cap, c'est une péninsule. Voire une saillie, aurait dit ma cousine Ursule, qui s'y connaissait plutôt bien en la matière, sacrifiant à chaque Saint-Sylvestre à la tradition sud-américaine de porter des dessous chatoyants et tentateurs, rouges de préférence, censé lui garantir le bonheur en amour. Pour mettre toutes les chances de son côté, elle ne portait que cela pour passer sous le gui, tout en avalant 12 grains de raisin, suivant la tradition espagnole, et en sautant sur une chaise pour faire fuir le mauvais sort, comme l'exige la coutume danoise. car ma cousine Ursule, en plus de porter un prénom suranné et d'être nymphomane, était vraiment très superstitieuse. Malheureusement, un grain de raisin coincé dans sa glotte au 12e coup de minuit alors qu'elle trépignait nue sur un tabouret, la pauvre n'avait pas trouvé de chaise dans le charmant asile où elle séjournait, eut raison de sa brève mais trépidante existence. On ne plaisante pas avec la tradition, une chaise, c'est une chaise. Mais ne nous égarons point et revenons à nos flonflons. Changer d'année, ça change quoi en vrai ? Bien le chiffre déjà, et parfois même le siècle. Ce n'est pas rien tout de même. Et puis quoi me direz-vous ? Eh bien en janvier, chaque année, les chrétiens, même ceux qui portent très à droite, accueillent sans sourciller 3 migrants sans papier. N'est-ce pas là un petit miracle ? Bon, ok, ils n'arrivent pas les mains vides, mais quand même. Tous les 6 janvier, nos 3 lascars se pointent sans se presser, nez au vent, guidés par une étoile GPS, et squattent l'air de rien toutes nos églises sans se faire virer. Il y a là ce sacré Gaspard, il y a Melchior aussi, et puis Balthazar, Épiphanie, mais elle, on la connaît moins. Et avec eux apparaît la fameuse galette. C'est pas une petite révolution, ça ? En tout cas, c'est un cycle. Enfin, dans le midi, c'est plutôt une brioche joufflue, garnie de fruits confits. Ailleurs, c'est souvent un truc rond et plat fourré à la frangipane. Mais partout, on tire les rois. Une tradition croquignolesque qui ravissait ma cousine Ursule, laquelle aurait bien mouillé sa fève dans un palais royal. Car en plus de porter un prénom suranné, d'être nymphomane et superstitieuse, elle était un peu snob, Ursule. Elle changea néanmoins d'avis lorsqu'elle apprit que sous la Révolution, la fête des rois était devenue la fête des sans-culottes. C'est quand même un peu plus festif, pensait-elle en se grattant la fève. Mais bon, comme le dit un proverbe ardéchois, fleur de janvier ne va pas au panier. Et comme l'énonça fort à propos Michel Bernier, Pinocchio, lui, n'a pas eu de chance. Il a eu la gueule de bois toute sa vie. Alors, le 1er janvier prochain, au lieu de vous plaindre de votre bouche pâteuse et de votre cerveau embrumé, pensez un peu à Pinocchio.
Merci beaucoup Sylvie Calais pour cette chronique. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les activités d'écriture et papyrus sur le site internet écriture-papyrus.com. C'est la fin de ce vagabondage. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un très beau mois de janvier, une très belle année qui commence et surtout beaucoup, beaucoup de belles rencontres et beaucoup de beaux vagabondages.
I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt and baggy pants. The old soft shoe. He jumped so high, jumped so high.